Bonsoir. Le confinement difficile à supporter par beau temps, de nombreux signes de relâchement ont été constatés ce dimanche à travers le pays. Les autorités politiques et médicales appellent à ne pas baisser la garde. Le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour, explique Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur. Sur France Inter, il annonce un nouveau renforcement des contrôles. Plusieurs dizaines de patients transférés d'Île-de-France en Bretagne. À nouveau ce dimanche, les évacuations se poursuivent pour libérer des places en réanimation. C'est une vraie solidarité régionale qui s'est mise en place. Parallèlement, deux essais cliniques vont démarrer cette semaine, dont l'un fait appel au sang d'un ver marin très riche en oxygène. Dans ce journal également, l'enquête sur l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère. Le suspect, toujours en garde à vue, serait allé à l'hôpital la veille, persuadé d'avoir contracté le Covid-19. Il était rentré chez lui agité et très inquiet. La reine Elisabeth II, qui s'adresse tout à l'heure aux Britanniques, n'était plus arrivée depuis 18 ans. Et puis une classique du cyclisme, le Tour des Flandres, transformé en course virtuelle avec de vrais professionnels du peloton qui se sont affrontés à distance.
France Inter.
Pour commencer, c'est l'une des images de ce dimanche, le symbole du confinement général imposé aux trois quarts des terriens. Le pape François, seul ou presque dans la basilique Saint-Pierre, vidé de ses fidèles pour la messe des rameaux, qui marque le point de départ de la Semaine Sainte et qui d'habitude attire la foule. Xavier Sartre à Rome.
La chorale entonne les psaumes comme d'habitude dans la basilique Saint-Pierre, mais c'est bien la seule once de normalité en ce dimanche des rameaux. Pas de procession sur la place au milieu de la foule, juste une petite troupe d'une dizaine de clercs entourant le pape se dirigeant vers l'autel au fond de la basilique. L'assistance se réduit à une douzaine de personnes dûment espacées, isolées chacune sur un banc, du jamais vu pour une des messes les plus importantes du calendrier liturgique. Le Saint-Siège avait prévenu, il y a plusieurs semaines, les cérémonies de la Semaine Sainte se dérouleront sans fidèles. Le pape, plus habitué aux assemblées de dizaines de milliers de personnes, ne s'adresse quasiment qu'à la caméra, seul lien avec l'extérieur.
La situation est à lui plus étrange.
Le drame que nous traversons en ce moment nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux, déclare le pape dans son homélie, à ne pas nous perdre dans des choses de peu de valeur, à redécouvrir que la vie ne sert à rien si on ne sert pas, parce que la vie se mesure grâce à l'amour. Et s'adressant aux jeunes, le pape invite à regarder les vrais héros, ceux qui donnent d'eux-mêmes pour servir les autres, pas ceux qui sont célèbres, qui ont de l'argent et du succès. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Depuis le début du confinement, c'est à distance que sont célébrés les offices par visioconférence. Pour beaucoup de prêtres, il a fallu s'adapter aux moyens modernes de communication, avec parfois les moyens du bord, comme le raconte ici à Cécilia Arbona, le curé d'Illiers-Combray, en Eure-et-Loire, pour qui les voix de Skype n'ont plus aucun secret.
Alors écoutez, je ne suis pas du tout doué pour la technique, je dois vous avouer que c'est très archaïque. J'accroche simplement mon téléphone avec un élastique sur un chandelier de l'église et je mets la caméra et ensuite la messe se déroule sur Skype. Et ce matin, bien sûr, il n'y avait pas les 300 personnes qui sont à la messe habituellement, mais nous avions près d'une cinquantaine de connexions, donc des familles ont pu suivre la messe ce matin et voir leurs rameaux bénis, puisque j'ai béni les rameaux non seulement ceux que j'avais devant moi, mais également les rameaux de toutes les personnes qui étaient chez elles. Ce qui est bien, c'est comme nous sommes interconnectés, eh bien des personnes font les lectures de chez elles, et bien moi, bien sûr, je proclame l'évangile. Du coup, moi, ça me réjouit de savoir aussi que je ne suis pas seul, mais c'est quand même difficile pour un prêtre de célébrer la messe, surtout le dimanche, devant une église vide. C'est sûr, c'est un petit peu une frustration devant cette église vide, c'est certain. On espère que ça ne va pas durer trop longtemps.
L'abbé Monnier d'Illiers-Combray, le pays de Marcel Proust. C'est une autre image de ce dimanche de confinement, des rues qui devraient être désertes et ne le sont pas vraiment. C'est en tout cas l'impression générale qu'un certain relâchement s'observe ces dernières 24 heures, le beau temps aidant. Pas facile de résister à la tentation d'une petite balade sous le soleil et pourtant il le faudra. C'est ce que nous demandent les soignants, de ne surtout pas baisser la garde. Et Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur, invité du 13h de France Inter, a prévenu, le gouvernement ne lâchera rien, les contrôles seront plus que jamais renforcés.
Le risque avec le beau temps qui arrive, le risque c'est celui du relâchement. Il ne faut rien lâcher sur la règle de confinement, il ne faut rien lâcher là-dessus, le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Évidemment, avec le beau temps qui arrive, nos contrôles vont être renforcés, ils vont l'être encore aujourd'hui. Je m'en suis entretenu d'ailleurs encore ce matin avec le préfet de police des Bouches-du-Rhône, avec la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, avec la préfecture de police de Paris. Ces contrôles, ils vont être renforcés partout sur les lieux de promenade, avec beaucoup de fermeté. Croyez bien qu'il n'y aura aucun relâchement des forces de l'ordre dans les contrôles qui sont mis en place.
Ne cédez pas à la tentation, restez chez vous. C'est aussi ce qu'a demandé aux Franciliens pour les jours qui viennent la présidente de région Valérie Pécresse, comme l'a fait également le président de la PHP Martin Hirsch, en voyant un peu trop de monde, lui aussi dans les rues de Paris, trop de promeneurs. Ce que vous êtes allé vérifier, Emmanuel Grabet, que les promeneurs étaient assez nombreux, mais que les contrôles l'étaient aussi.
Globalement, les règles de base sont comprises, l'attestation, le motif valable, ne pas être à plus d'un kilomètre de chez soi.
Je suis dans mon périmètre, il vient de me le dire.
Il, c'est le policier qui vient de mettre 135 euros d'amende à Nathalie. Elle conteste, elle parle de subtilité.
J'avais rencontré un ami, on discutait, mais à un mètre de distance, et du coup on est verbalisés tous les deux. Voilà, là c'est un abus quoi. C'était pas marqué qu'on n'avait pas le droit de parler à une personne à un mètre quoi. Vous savez monsieur, je travaille à la mairie de Paris. Je travaille pour Madame Anne Hidalgo.
Pas de quoi impressionner les policiers qui repartent sans voir Marie et Christian qui bronzent dans les hautes herbes à quelques dizaines de mètres. Et ça aussi, c'est interdit.
Mais je pense que c'est vraiment interdit.
Je m'interrogeais là-dessus parce que justement, je ne voyais personne faire la même chose.
Bon, après, je pense que si tout le monde déconfine comme ça, il n'y a pas un risque énorme.
Non, parce qu'il n'y a personne autour. Donc après, si on est 150 à faire la même chose, il y aura un problème, effectivement.
Pas besoin d'être 150, juste 6, 2 couples, 2 enfants qui jouent au ballon séparément. Clément en convient, ne pas se frôler, c'est difficile.
On n'est pas top, je pense. Je comprends qu'ils mettent plein de contraintes pour limiter l'envie des gens de sortir, mais dans ce cas, soyons plus clairs plutôt que de verbaliser pour un oui pour un non. Quoi.
Des verbalisations moins nombreuses qu'hier dans le bois de Vincennes, selon plusieurs policiers. Leur présence renforcée et les drones qui survolent la zone semblent avoir dissuadé les plus récalcitrants.
Emmanuel Grabet, du côté de Vincennes, c'est partout à peu près la même impression de relâchement. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a saisi le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'alerter sur ce qu'il a cru lui aussi observer. Attitude incompréhensible, dénonce également Jean Rottner, le président de la région Grand Est, la plus durement touchée par l'épidémie. Attitude incompréhensible, parfois accompagnée, il faut bien le dire, d'excuses bidons, disons d'inventivité, comme l'a raconté à Camille André le commissaire Salabert, directeur départemental de la sécurité publique en Haute-Vienne.
Il y a une personne qui nous avait répondu, elle en avait marre de sa femme et il fallait absolument qu'elle aille voir sa maîtresse. On a aussi la personne lors d'un contrôle qui nous dit qu'il va faire les courses et elle a acheté 3 citrons pour un apéritif, pour une margarita ou je ne sais plus quel apéritif. Donc c'était évidemment pas une excuse suffisante pour pouvoir aller faire les courses. Et puis s'il achète par 3 citrons, il va faire plusieurs courses dans la même journée. Des vendeurs de drogue aussi. Il y en a un qui nous a quand même dit qu'il fallait qu'il vende sa drogue s'il voulait survivre. Bon, on a toutes les excuses fallacieuses. J'ai un rendez-vous chez le médecin, mais évidemment qu'il n'y a pas d'attestation sous l'honneur. Ou alors qu'il va voir sa grand-mère. Souvent, ils vont souvent voir leur grand-mère, mais sans attestation ou sans même qu'il y ait de grand-mère. Donc on verbalise là aussi si vraiment on se rend compte que la personne est de mauvaise foi et qu'elle nous raconte des bobards, quoi.
Dans le genre, on peut ajouter cet automobiliste d'Auxerre qui avait collé un faux caducé sur son pare-brise pensant se faire passer pour un médecin. Il a fini en garde à vue, faut dire qu'en plus il était ivre. Et puis il y a ce fumeur de Perpignan qui s'est perdu dans la montagne pour aller acheter des cigarettes en Espagne. Les gendarmes l'ont retrouvé épuisé, grelottant de froid sur les hauteurs du Pertus. On parlait du Grand Est à l'instant. Du Grand Est et de l'Île-de-France, ce sont à ce jour pas moins de 566 patients qui ont été évacués depuis le début de l'épidémie de ces deux régions. Cet après-midi encore, 2 TGV médicalisés venus de Paris sont arrivés en Bretagne, où plusieurs dizaines de patients devraient être dispatchés de Rennes à Brest, en passant par Vannes ou Lorient. L'objectif étant bien sûr de libérer des places en réanimation dans les établissements en tension. Hélène Chevalier, mission parfaitement remplie à ce jour. C'est une vraie solidarité régionale qui a pu s'exprimer à cette occasion.
Et la première à avoir mis en place ces transferts, c'est la région Grand Est. En un peu plus de 2 semaines, 305 personnes atteintes du Covid-19 ont été transférées dans des régions ou des pays moins touchés, car ce sont majoritairement l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg qui ont en effet accueilli les patients français de la région. 179 personnes au total. Les autres ont été transférées principalement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, dans les pays de la Loire ou en Provence, Alpes-Côte d'Azur. La région PACA qui a également accueilli une partie des 52 patients évacués de la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que 12 Corses. En Ile-de-France, les transferts n'ont commencé que mercredi dernier, mais en 5 jours, 220 patients ont déjà été évacués vers la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val-de-Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant combien de temps les hôpitaux les moins touchés pourront-ils accueillir ces patients? Eh bien, il semblerait qu'il y ait encore un peu de marge pour certaines régions. La Bretagne, par exemple, dispose de 250 lits libres en réanimation. Tout cela, bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas touchée massivement à son tour par le virus.
Et puis après l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, la République tchèque accueillera 6 patients français dans les jours à venir. La France nous a demandé de l'aide, nous avons répondu à l'appel, vient de déclarer le Premier ministre Andrej Babis. Le confinement, les transferts, le port de masque alternatif si possible, tout cela peut permettre de gagner la partie contre l'épidémie. Reste à trouver bien sûr un remède contre la maladie, un possible vaccin dans les 2-3 ans qui viennent. Et en attendant, peut-être une aide aux malades à travers ce nouvel essai clinique auquel tous les feux verts ont été accordés. 10 malades du Covid-19 vont se voir administrer une solution issue du sang d'un ver marin dont l'hémoglobine est riche en oxygène et pourrait aider les patients en détresse. C'est l'idée d'un chercheur du CNRS devenu entrepreneur en Bretagne, Sophie Becherel.
Franck Zahl travaille depuis 25 ans sur la rainicole. Ce petit ver marin de 10 cm de long se repère facilement sur les plages grâce aux traces qu'il laisse sur le sable. Ancien chercheur au CNRS, le patron de la société Emarina a compris que l'animal était doté d'une hémoglobine extracellulaire. Elle ne se trouve pas dans les globules rouges et peut être extraite. Franck Zahl.
Je me suis aperçu que cette molécule, c'était l'ancêtre de nos globules rouges, qui avait une capacité de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. Et sans typage sanguin, c'est-à-dire que cette molécule, elle est universelle, il n'y a pas de typage sanguin, elle fonctionne d'une façon extrêmement simple, archaïque, c'est pas compliqué.
Une fois extraite à partir d'un élevage de ver marin réalisé en Vendée, la molécule est transfusée aux patients qui arrivent à l'hôpital.
Cette molécule va être utilisée par injection, c'est-à-dire dans la circulation centrale. Les patients, en fait, qui arrivent dans ces centres de réanimation, certains d'entre eux vont avoir des asphyxies extrêmement poussées, perte de 70% des capacités respiratoires. Et donc, ces patients-là, à un moment donné, si on ne fait rien, ils vont décéder parce qu'ils ont besoin d'oxygène, en fait, pour leur métabolisme.
Ce traitement se substitue au respiratoire. 10 patients de l'hôpital Georges Pompidou et de la Pitié-Salpêtrière à Paris vont en bénéficier à partir de mardi. La société est en mesure de fournir 5000 doses. Ce traitement a déjà fait ses preuves dans les greffes d'organes.
Et puis un autre essai clinique doit également démarrer, consistant celui-là à transfuser du plasma de personnes guéries vers des patients en phase aiguë de la maladie. La mort d'un médecin généraliste du Haut-Rhin, le troisième dans ce département particulièrement touché par l'épidémie. Il avait 73 ans. Il est le 7e médecin décédé en France du Covid-19. Sur le plan économique, l'État continuera de soutenir massivement les entreprises et les salariés, répète Bruno Le Maire dans le JDD, en rappelant les 5 millions de salariés qui bénéficient aujourd'hui d'un dispositif de chômage partiel. Justement ce que réclament à leur employeur les intermittents de Disneyland Paris. Ils sont à peu près 350 et ils dénoncent aujourd'hui les pressions de la direction qui chercherait à leur faire signer des ruptures de contrat à l'amiable, Claire Chaudière.
Après avoir proposé des ruptures de contrat à l'amiable, les 4 spectacles de la saison chez Disney étant suspendus, ce sont désormais des ruptures de CDD unilatérales pour cas de force majeure qui sont envisagées par la direction du parc d'attractions, s'inquiète la CGT Spectacle, qui recueille des témoignages qu'elle qualifie d'alarmants, son porte-parole Denis Gravouille.
Les intermittents en question risquent de tout perdre si on leur rompt leur contrat de travail. Non seulement ils n'auront pas leur salaire, et en plus ils risquent de ne pas pouvoir ouvrir de droit. Donc nous on demande à Disney de renoncer à cette rupture unilatérale qui pour nous est illégale. Sinon, on va avoir un gros contentieux qui concerne des centaines de personnes. Il y a des petites compagnies qui sont certainement dans des situations financières infiniment plus précaires qui se comportent correctement. Clairement, Disney ne peut pas se comporter comme ça.
Préoccupé également David Charpentier, secrétaire général du syndicat indépendant Site 77. Le sort du millier de saisonniers attendus sur le site de Marne-la-Vallée, dit-il, est aussi en suspens.
Il y a beaucoup de saisonniers aujourd'hui dont les contrats ont été bloqués, reportés. En attendant, ils n'ont rien. La réalité humaine de ces 1000, peut-être 2000 personnes, aujourd'hui est un vrai sujet d'inquiétude.
Mais à la décharge de Disney, nuance ce syndicat, il y a peut-être là une faille du système, le recours au chômage partiel sur une activité pas encore démarrée, alors que les perspectives sont compromises, peut poser question. Sollicité, la direction n'a pas donné suite à nos demandes.
19h14 sur France Inter, c'est le journal d'Yves Decamp.
24 heures après l'attaque au couteau à Romans-sur-Isère, la ville sous le choc voudrait comprendre. 2 personnes ont été tuées, 5 autres blessées dans la rue et 2 commerces. Le suspect, un réfugié soudanais de 33 ans, n'a pas été transféré ce jour à la sous-direction antiterroriste de Levallois-Perret. Il est toujours en garde à vue à Valence. 2 de ses connaissances également. Le suspect, qui n'était pas connu des services de renseignement et n'était pas fiché S, n'a pas expliqué son passage à l'acte. Il dit ne pas se souvenir de ce qu'il a fait. Corinne Audouin, ses amis racontent qu'il était très perturbé par le confinement.
Oui, c'est ce qu'on apprend ce soir de sources judiciaires. D'après plusieurs témoins, commerçants et voisins, cet homme, décrit comme sympathique et discret, était énervé, aigri par les restrictions imposées par le confinement. Une voisine l'a vu faire du sport dans la cage d'escalier de l'immeuble. Il était agacé de ne pouvoir s'exercer dehors. Il s'était même épanché auprès de la buraliste, la même où il a débuté son parcours meurtrier samedi matin. Employé par une maroquinerie, il ne travaillait plus depuis le confinement. Le deuxième homme, actuellement entendu par les enquêteurs, est un de ses amis soudanais résidant à Valence. Il était venu à Romans pour le voir parce qu'il s'inquiétait pour lui. L'auteur de l'attaque lui aurait confié qu'il avait peur d'avoir attrapé le Covid-19. Il serait même allé à l'hôpital vendredi avant d'être renvoyé chez lui par les médecins. Cette visite à l'hôpital n'a pas pu être corroborée pour le moment. Les investigations continuent, mais à ce stade, aucun témoignage ne fait état d'une radicalisation religieuse. Aucun élément n'a été retrouvé en lien avec une organisation terroriste. En garde à vue, l'homme semble incapable d'expliquer les raisons de son acte. Il doit rencontrer demain un expert psychiatre chargé d'évaluer sa santé mentale.
Corinne Audouin, à l'étranger, au Royaume-Uni, 18 ans qu'elle ne s'était pas adressée à la nation dans une allocution solennelle. C'était en 2002 pour la mort de la reine mère. La reine Elisabeth II, à bientôt 94 ans, prendra cette fois la parole à Buckingham tout à l'heure pour évoquer la crise sanitaire. Sans faire bien sûr aucune annonce, ce n'est pas son rôle. Elle devrait saluer le comportement des Britanniques et les encourager à continuer le combat. Ce n'est que la quatrième fois qu'elle intervient de la sorte en 68 ans de règne. C'est dire l'importance de cet instant. Antoine Gignot à Londres.
C'est un discours pour rassurer, pour galvaniser les foules. Avec cette phrase, notre génération va montrer qu'elle est aussi solide que celles qui nous ont précédés. Enfermée à l'intérieur du château de Windsor pour éviter toute contagion, Elisabeth II remercie dans son message le personnel soignant. Elle évoque le chagrin, les difficultés financières auxquelles beaucoup doivent faire face et elle met en avant les valeurs, les traits de caractère des Britanniques face à l'adversité, le calme, la bonne humeur, l'autodiscipline. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette prise de parole inhabituelle fait partie du dispositif politique. Pendant que la reine encourage et réconforte, le ministre de la Santé menace de renforcer les mesures de confinement, si elles ne sont pas suffisamment respectées, quitte à interdire les sorties sportives. Il évoque les irresponsables qui sont allés ce week-end bronzer dans les parcs. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Voilà, c'est partout pareil. Apparemment, le nombre des amendes pour infraction aux règles du confinement a également explosé ce week-end en Italie. En Inde, autre intervention remarquée, celle du Premier ministre Narendra Modi, qui a ses propres méthodes pour vaincre la pandémie, pour défier les ténèbres du coronavirus. Il avait demandé à ses compatriotes de sortir aux fenêtres et sur le pas des portes, torches et bougies allumées, ce que beaucoup d'entre eux ont fait, mais pas tous, comme Bastin nous appelle de Bangalore.
En faisant de la lumière dans les quatre directions, nous devons défier les ténèbres du coronavirus et montrer la force de 1,3 milliard d'Indiens. C'est ainsi que le Premier ministre Narendra Modi a demandé à ses concitoyens de combattre la pandémie. Ce dimanche 5 avril à 9h, ils ont éteint leur lumière et allumé des bougies ou la lampe de leur téléphone durant 9 minutes. Une manifestation collective qui trouve son inspiration dans la fête des Lumières hindoues de Diwali. Destiné à montrer l'unité du peuple indien, la démarche de Narendra Modi a été suivie, mais laisse une partie de la population sceptique. Sur Twitter, le hashtag « Nous n'éteindrons pas les lumières » fait partie des plus utilisés aujourd'hui. Certains internautes demandent plutôt des moyens supplémentaires pour le personnel médical. Divya Bell, 30 ans, habite la ville de Bangalore.
Je comprends que le Premier ministre veuille encourager les Indiens. Mais en l'absence d'annonces sur le plan sanitaire, ces cérémonies sont absolument inutiles.
Plusieurs spécialistes de l'énergie ont par ailleurs alerté sur les risques que cette initiative faisait peser sur l'alimentation en électricité du pays. Ça pourrait faire disjoncter le réseau et perturber l'urgence sanitaire en cours, a ainsi déclaré le ministre de l'énergie de l'État de Bombay. Comme Bastin, Bangalore, France Inter.
En France, n'allumons pas les lumières, mais éventuellement la télé. Confinement oblige. Une nouvelle chaîne verra le jour dès demain matin sur les box. Une chaîne de solidarité, c'est le cas de le dire, fabriquée qu'elle sera par toutes les chaînes du petit écran et par les groupes de cinéma, films et documentaires au programme. Son nom, de circonstance, à la maison. Pierre-Antoine Capton, le patron de Media One, l'un des plus gros distributeurs audiovisuels en Europe. Il est au téléphone de Jacqueline Petros.
C'est vraiment une démarche caritative, la volonté du groupe Media One était de pouvoir aider les soignants et de trouver quelque chose d'intelligent à faire. On n'est pas capable aujourd'hui dans notre secteur des médias de fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique, on ne peut pas livrer de repas aux soignants. Et donc pour nous, faire une bonne action et aider les hôpitaux et les soignants, on pouvait le faire à travers les contenus que nous éditions aujourd'hui et notre réponse, c'est cette chaîne. Et donc lundi dernier, on s'est mis au travail. Et Dimitri Rassam, avec qui nous travaillons, nous a proposé de contacter Jérôme Sédou chez Pathé pour ajouter des films à notre catalogue et à notre grille de programme. Et on s'est dit qu'on pouvait contacter d'autres partenaires. Et pareil pour les diffuseurs. Et tout le monde a dit oui pour pouvoir diffuser la chaîne. Elle s'arrêtera le premier jour du déconfinement. Elle est vraiment éphémère. On l'a vraiment mise en place pour pouvoir reverser l'intégralité des revenus à la Fondation de France, aux hôpitaux, aux soignants. C'est un projet sur lequel on a fédéré l'intégralité du secteur.
À la maison, donc, dès demain sur toutes les boxes. En sport, c'est l'une des grandes classiques cyclistes de la saison. Le Tour des Flandres, qui devait se disputer ce dimanche, a été reporté. Pas encore annulé, seulement reporté. En attendant, c'est un mini-tour virtuel qu'ont mis en place les organisateurs. 13 coureurs parmi les professionnels du peloton se sont affrontés à domicile sur des rouleaux, Louis de Bergevin.
Derrière les images virtuelles de la course, la sueur est bien réelle. Sur l'écran, on voit un paysage défilé en images de synthèse et un peloton groupé. Mais en réalité, les 13 coureurs sont chacun chez eux, pédalant parfois dans leur cuisine, parfois dans le salon ou sur la terrasse. Sur leur vélo d'entraînement surélevé et connecté à une sorte de jeu vidéo, ils ont parcouru 32 km. La course était diffusée à la télévision et sur Internet, avec un commentateur en chair et en os, une caméra installée devant chaque cycliste pour capter les efforts, qui eux n'ont rien de numérique. Il n'y avait qu'à voir le visage concentré et déformé par la douleur du vainqueur Greg Van Avermaet, félicité par le commentateur cycliste Marty McDonald.
Tu es le vainqueur, Greg Van Avermaet, le vainqueur de l'édition 2020 du Tour des Flandres. Il a presque terminé. Greg Van Avermaet remporte la victoire. C'était un énorme effort, un effort monumental.
Il y avait tout d'une vraie course avec des émotions, des rebondissements et même un abandon pour problème technique. L'Australien Michael Matthews a dû s'arrêter, un souci avec le rouleau qui surélève sa roue. Mais il n'avait pas de mécanicien, confinement oblige. Il s'en est expliqué sur Twitter, rappelant qu'il est important de rester chez soi. On peut dire qu'ils ont montré l'exemple.
Louis de Bergevin, et c'est un vrai téléphone sonne, pas du tout virtuel, qui nous attend maintenant. Alexandra Ben Saïd.
C'était le journal d'Yves de Caen.